Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio.
Marc-André, compte en commun les marques Sillon, Saturne, Pontiac, Plymouth, et je pourrais continuer comme ça pendant des heures.
Je sais pas, c'est des chars de boomer?
Oui, entre autres, mais c'était pas la réponse qu'on recherchait. La réponse recherchée, c'était des marques qui ont disparu. Il a déjà été question à Podcast de Char, bien avant ta naissance, de marques disparues. On avait, à ce moment-là, émis nos prédictions par rapport à celles qui étaient appelées à disparaître. Je veux pas me vanter, mais j'avais misé un petit 2 sur Smart. Ça m'a payé de belles vacances dans le sud. Comme tout ça, ça fait plus d'un an, mais je me disais qu'on serait peut-être dû pour une petite mise à jour des marques qui pourraient être appelées à disparaître dans un avenir plus ou moins lointain.
Oui, on le sait, parce qu'avec la situation économique difficile, là, que la maladie qu'on n'aimera pas amener, ben, tu sais, on sait qu'avant toute cette crise-là, il y a des constructeurs qui n'avaient pas nécessairement les reins très solides. Là, bien, on a besoin de dialyse, hein, parce que les reins ne fournissent plus. Alors, on a besoin de penser au futur, et malheureusement, pour certaines marques, le futur risque d'être ailleurs plutôt qu'ici.
On part?
Je pense qu'on part.
Chacun de notre côté, Marc-André, dans notre domicile respectif sur l'île de Montréal, ou plus ou moins, on a une boule de cristal devant nous. Ben oui, hein, parce que l'île des Sœurs, c'est un peu comme une excroissance de l'île de Montréal.
Il y a une époque où c'était des champs. Et ben, plus des terrains de golf et plus des condos, mais ouais.
Tétroville aussi, c'était un champ il y a une centaine d'années, mais on n'est pas dans un podcast d'urbanisme, sinon on serait pas là.
Excuse-moi, je me suis trompé dans mon horaire d'heure.
Oui, c'est ça. Donc, moi, dans ma boule de cristal, eh ben, je ne vois qu'une seule marque. Je mets tous mes jetons de couleur sur cette marque et c'est Infiniti. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
Infiniti. Attends, ça me dit de quoi ce nom-là? Ils faisaient pas des voitures?
Oui, ils faisaient des voitures et ils en font encore. Le seul problème, c'est qu'ils n'en vendent pas. Donc, pour moi, c'est tous les signes ne mentent pas en ce qui concerne Infiniti. Il y a des concessionnaires qui ont été vendus, d'autres qui ont été fermés. Il y a une restructuration au Canada et sur le plan global pour Nissan qui détient Infiniti, là, parce que Infiniti, finalement, c'est tout simplement la branche de luxe, la branche de prestige, entre guillemets, de Nissan. Donc, on est à la remorque de Nissan. Si Nissan va mal, ben Infiniti va mal, c'est certain. On sait qu'il y a eu le départ précipité, hein, du PDG pour le moins coloré. Ben ça a eu pour effet quand même de bouleverser l'entreprise, de mettre l'entreprise sous les projecteurs quand même. Certains y ont vu de grandes faiblesses. Et malgré tout ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est quand même lui qui a redressé Nissan et qui a fait exploser les chiffres de vente finalement depuis les années 2000.
Donc, Carlos Ghosn, tu parles bien de Carlos Ghosn qui écoute ses jours tranquille, oui. Caché quelque part au Liban et qui s'amuse à dire à qui veut bien l'entendre là, que Nissan en a pour 2-3 ans avant de faire faillite.
Voilà, donc pour ce qui est de Nissan comme tel, je suis pas inquiet de sa survie, mais pour ce qui est d'Infiniti qui déjà battait de l'aile, eh bien, j'ai très peur pour son avenir. Si on fait juste jeter un coup d'œil un peu rapidement à sa gamme avec laquelle tu es sans doute familier aussi.
Honnêtement, je pense que j'étais au lancement de tous les produits sauf le QX50 dans ce gamme-là.
Bon, ben le QX50, j'ai eu la chance de le conduire. Ça, pour les gens qui le savent pas, eh bien, c'est le VUS compact d'Infiniti. On a un moteur turbo-compressé à compression variable. Donc ça, quand on est arrivé avec ça, on s'attendait là
à tout casser, hein? C'était censé être l'argument qui allait vous amener de BMW à Infiniti, là.
Oui, voilà. Et ça allait être plus performant, ça allait être plus économe de carburant. Bref, on allait gagner sur tous les tableaux. La vérité, c'est que bah, c'est correct, mais ça fait rien de plus que les autres motorisations plus conventionnelles qu'on retrouve sur le marché. Autrement dit, on s'est cassé le bicycle pour patenter une technologie qui ne donne rien de plus. Donc, Oui, vas-y.
Je veux dire, c'est comme la direction de la Q50 puis de la Q60, là. Une espèce de direction déconnectée des roues qui, oui, je comprends le principe qu'ils disent que ça diminue la fatigue parce qu'on ne se bat pas constamment contre la route. Tu sais, autrement dit, on a l'impression de conduire une voiture qu'un joystick. Mais quelqu'un qui aime les voitures, tu sais, qui donne un certain ressenti au volant, tu l'as pas vraiment avec ces autos-là, tu sais.
Absolument pas. C'est très aseptisé. Oui. Et la direction est comme surassistée, si on veut. Ça me rappelle un peu les autos des années, les autos américaines du siècle précédent.
Ça, c'était le bon vieux temps, hein. Tu tournais ton volant, tu savais pas trop où, jusqu'à quel degré il fallait que tu le tournes. Donc, tu te priais à chaque fois de prendre la courbe en sécurité.
Ah, c'était le bon temps. Ben, on sait, les VUS, bon, c'est très populaire, mais le QX50 réussit, lui, à ne pas se vendre. Et là, on parle même pas du VUS sous-compact qui a été retiré et jamais remplacé. Donc, le QX30.
C'est une copie du Mercedes-Benz GLA d'ancienne génération.
Exactement. Donc, on n'a pas poursuivi dans cette lignée-là. Pourtant, c'est des véhicules qui se vendent normalement comme des petits pains chauds, mais on a décidé chez Infiniti de pas poursuivre là.
Les autres sont dépassés, hein, QX60, QX60. 70, QX80, c'est toutes des vieilles plateformes, de vieux modèles qu'on traîne depuis 10 ans. Là. Oui, ils n'ont pas la gamme pour nous attirer, je pense. Là.
À peine des Nissan endimanché. Puis si on regarde là, la berline qui a été longtemps le pain et le beurre d'Infiniti, donc la Q50.
La G37 avant, là.
Oui, G37, G35 avant et ainsi de suite. Ben, de 2018 à 2019, on a vu les chiffres de vente baisser de 30% au Canada et c'est ce que je mentionnais.
C'est triste, hein, parce que quand... C'est...
Oui, absolument.
C'est où j'ai grandi, moi, à l'île Perrault, là, pour ceux qui connaissent un peu l'endroit.
Une autre excroissance de l'île de Montréal.
Mais ça, c'est une vraie excroissance, pour être très franc. On salue mes anciens compatriotes. L'île Perrault, là, je sais pas pourquoi, mais quand j'étais plus jeune, tu sais, quand j'avais début vingtaine, toutes mes amis tripaient sur les Infiniti. Le monde ne voulait pas de BMW, ils voulaient une G37, ils voulaient des vieilles G35, tu sais, ils voulaient même des Altima coupés, là. Nissan avait une espèce d'aura de produit cool, peut-être à cause de rapide et dangereux, je sais pas. Puis ils ont pas réussi, ils ont jamais réussi, jamais réussi à tabler là-dessus, en fait. Puis là, écoute, il y avait même une auto cool, tu te rappelles la berline M, là? L'espèce de grosse berline avec un V8. Oui. Tu sais, toutes ces voitures-là, on n'entend plus parler. La Q70, qui l'appelait, je pense, chez Infiniti, à la fin, qui ont changé les noms. C'est triste.
Une autre qui a été retirée du catalogue, d'ailleurs. Et, tu sais, si on jette un coup d'œil dans l'avenir, il y a rien d'électrique, il y a rien d'hybride. Oui, on a des concepts ici.
Il y a les e-power qui sont des genres de voitures électriques un moteur à essence qui crée de l'électricité, là. C'est un peu flyé, là, mais c'est ça.
Mais on est très loin d'une commercialisation, si tu veux, mon avis. Donc, pour le moment, le catalogue ne compte rien d'hybride, ne compte rien d'électrique. Et,
il y avait une Q50 hybride qui était plutôt de ça.
Exactement. Je pense que c'est mieux qu'on
n'est pas obligé de la compter, effectivement.
Voilà. Donc voilà, rien de bon en ce moment pour Infiniti, mais l'avenir n'est pas, lui non plus, ne s'annonce pas très glorieux. Donc, si Nissan avait des coupures à effectuer dans un de ses secteurs, pour moi, ça serait très facile d'aller trancher dans la marque Infiniti. Je pense que tout le monde s'en porterait finalement un peu mieux. Dans les manufacturiers de prestige, entre guillemets, japonais, pour moi, c'est celui qui est dans la plus mauvaise position, là, si on compare à Lexus ou à Acura, qui est en pleine relance, là, avec son RDX, qui connaît quand même une certaine popularité, qui est un véhicule que je trouve dans l'ensemble très bien, à part le système d'infodivertissement.
T'attirer des ennuis avec
ça? J'avais pas peur de dire ce que je pense de ce système d'infodivertissement.
Pas déranger les dents chez les gens chez Acura qui n'aiment pas entendre la vérité, je veux dire, des commentaires négatifs.
Voilà. Et on vient de lancer aussi la TLX de nouvelle génération. Bref, il y a un plan de relance chez Acura, ce qu'on n'a absolument pas chez Infiniti.
Ben, Infiniti sont probablement en mode damage control. Puis, tu sais, ils ont misé, comme tu disais, tellement sur le QX50 que c'était un, comme on dit au football, un Hail Mary, là, un ballon sacrifice.
Oui.
En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, ils ont misé, ils ont gamblé. Puis ça n'a pas marché. Le véhicule, c'est pas si populaire que ça. On voit beaucoup plus de Lexus RX, par exemple, ou même le NX. Puis les produits allemands, ils se vendent encore comme des petits pains chauds. Infiniti, je pense qu'on peut... Je peux pas te donner un time frame. Là. Je sais pas dans combien de temps ça va disparaître, mais disons que dans 5 ans, je pense pas qu'on va pouvoir en essayer encore.
Je partage entièrement ton avis et je miserais même sur une mise à mort plus rapide.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Moi, tu vois, d'un côté mort annoncé, là, je ne prétends pas être un Jojo Savard de l'automobile comme toi, là, mais moi, tu vois, c'est vraiment ce côté de Fiat et
c'est la première fois en passant qu'on me compare à Jojo Savard.
C'est à cause de la coupe de cheveux, mesdames et messieurs. Je sais que vous pouvez pas le voir, là, mais le confinement ne lui fait pas un grand bien.
Ben, les cheveux très courts.
Moi, je suis chanceux. Ma conjointe essaie de me couper les cheveux et à date, elle réussit quand même bien. Fait que...
Moi, c'est le numéro 4 sur le rasoir électrique.
Ah, moi, c'est 1,5 sur les côtés et 3 sur le dessus. Ah. On salue les coiffeurs amateurs.
Mais plus sérieusement, donc... Parlant de coiffeurs, la Fiat 500...
Ça, c'est un stéréotype, Germain.
Tout à fait. Que je
comme dirait Isabelle Comtois, la Fiat 500 de Chrysler.
Chrysler.
Mais c'est ça, la Fiat, dans le fond, on en a souvent parlé à ce podcast-là parce que c'est rendu une joke. Là, ils vendent 50 voitures par année de certains modèles, ils en vendent 3 de l'autre. C'est... Je me demande s'ils ont de la misère à aligner 1000 ventes au Canada. Là. Puis aux États-Unis, ça va vraiment mal aussi. Dans le reste du monde, la compagnie va correct. T'sais, en Europe, les 500 sont relativement populaires. Mais ici, là, c'est un désastre. De même, la Spider, là, qui est fabriquée au Japon à Hiroshima par Mazda, se vend pas tant que ça, finalement. Donc, moi, ça me surprendrait pas qu'éventuellement, on tire la plug ici. Parce que ça coûte cher, garder une marque en vie, tu sais. On l'oublie, là, mais il faut tant que tu fasses un paquet de pubs, de tests, de ci pis ça. Fait que ça me semblerait pas qu'à un moment donné, on se lève pis qu'on apprenne que, malheureusement, heureusement, Fiat, c'est quoi l'expression qu'on dit en latin, là? Sacre son camp.
Oui, exactement.
Sacrum campe, là. Puis tant qu'à y être, notre Marc Pagliette, il va peut-être sacrer son camp.
Alfa Romeo.
Écoute, ça avec, c'était la même chose. Ils ont sorti la Giulia, qui est, je sais que toi et moi, on n'a pas le même avis, là. Moi, je déteste cette voiture-là. Je trouve que c'est mal fini, ça shake. Par contre, la version Quadrifoglio, la version en tréfa 4 feuilles, quelle machine incroyable. Ben, je pense pas que ça suffit à sauver le modèle et il y a à peu près aucune vente. Là. Honnêtement, là, les concessionnaires Alfa Romeo se tournent les pouces. Ils ont encore de l'inventaire 2017 pour les chanceux qui veulent un deal incroyable sur une voiture qui n'a pas changé depuis. Mais là, eux disaient, ah, tout va être sauvé par le Stelvio qui était le beau et joli VUS. Là. Je suis prêt à l'admettre que c'est un beau véhicule. Mais lui non plus, ça vend pas plus. Là. Vraisemblablement, les gens sont bien dans leurs habitudes. Ils aiment leur VUS BMW X3. Ils sont pas prêts à faire le saut chez les Italiens. Donc, finalement, ça ne me surprendrait pas qu'Alfa Romeo et Fiat, tous dans le même groupe, là, ben finissent juste par disparaître.
Écoute, je les vois peut-être disparaître dans un horizon un petit peu plus lointain parce que Fiat et Alfa Romeo sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça.
Non,
donc, on a investi massivement en publicité. Dans les concessionnaires aussi ont dû investir énormément. Je pense que ce serait un petit peu précipité de les faire disparaître tout de suite. Cela dit, je serais pas surpris si ça arrivait demain matin.
Ah, puis je serais en beau fusil, moi, être un concessionnaire qui a investi 10 millions pour...
dans un studio mes... Fiat.
Hey, je sais pas si je t'ai déjà compté ça, que j'ai fini m'acheter une Fiat 500 quand ça venait de sortir. Hein?
Réalisateur, on coupe ça tout de suite, merci.
Non, c'est une histoire d'intérêt public, là. Dans le fond, c'est en quelle année? 2008, hein? Je pense que la Fiat 500 est arrivée ici.
Je sais pas.
Dans ces eaux-là, là. Puis, écoute, je me cherchais une voiture. Non, c'est en 2010 que je cherchais cette voiture-là. Je me rappelle, je venais de me faire une nouvelle ex-conjointe. Puis, dans le fond, tu sais, je voulais une nouvelle voiture. Puis la Fiat 500, je me disais, ah, c'est une petite auto européenne. Les gens de Top Gear, qui sont une référence habituellement en conduite, avaient aimé la voiture. Fait que je me suis dit, ça doit pas être si mauvais. Fait que je suis allé au concessionnaire. Puis, man, la voiture que j'avais essayé, d'un, j'avais détesté la conduite, là, c'était pourri. Et de deux, ça montait comme à 27 000, puis j'avais rien, là. J'avais pas une version en barbe, j'avais pas une version Gucci, j'avais pas une version cabriolet, j'avais une version manuelle, un peu équipée, là. C'était le prix d'une, quasiment d'une Honda Civic assis. C'était ridicule. Mon père me traitait de fou. Il me dit, si t'achètes ça, je te déshérite.
Ben, il l'aurait bien fait. Et le pire dans cette histoire-là, c'est la dépréciation de ces voitures-là parce qu'elles se vendent à rabais lorsqu'elles sont neuves, hein, évidemment, parce que les acheteurs sont pas nombreux. Donc, je te laisse deviner qu'une fois les paiements terminés, après 4, 5, 6 ans, l'auto ne vaut plus grand-chose.
Surtout que neuve, elle vaut pas grand-chose, sur mon avis. C'est tellement pas fiable, ces voitures-là, là. Tu sais, le nombre de problèmes que tu as dans une Fiat, j'ai déjà compté au micro là, la fois que mon 500X flambant neuf avait eu un problème à 10 000 $ parce que l'eau s'est infiltrée dans le différentiel arrière. C'est inadmissible en 2020 de faire des produits d'une qualité si médiocre. Puis honnêtement, Fiat mériterait de disparaître de l'Amérique du Nord parce que ce qu'ils ont fait, ils ont pris des produits corrects en Europe, ils ont zéro adapté, ils ont même empiré pour être populaire ici. Là. On sait que la Fiat 500 américaine est plus molle, moins intéressante à conduire parce qu'ils se disaient que Bob et Bud du Kentucky aimerait pas ça conduire une petite européenne nerveuse.
Bon, salut Bill.
Ouais, peu importe là, tous ces gens-là. Puis peut-être une dernière marque que tu soupçonnes pas là, que je vais sortir ça, je sais que ça semble un peu être out of the blue, mais je vais dire Mazda.
Ah!
Et je vais t'expliquer pourquoi. Je pense pas que la compagnie va disparaître au sens qu'elle va disparaître, mais elle va disparaître en tant que compagnie indépendante. Je m'explique.
Ah,
okay. Au niveau.
Ah, intéressant, intéressant.
Parce que, ouais. On vit dans un monde où les groupes automobiles sont de plus en plus gros, là.
Oui, et on se fera pas de cachette, là. Les gens qui sont peut-être pas sortis du Québec souvent dans les dernières années. Oui, se vend énormément de Mazda au Québec, mais ailleurs, en Amérique du Nord, là,
aux États-Unis, ils se vendent moins de Mazda que de Mercedes-Benz. C'est pas normal qu'un constructeur généraliste se fasse battre par une compagnie de luxe. Puis, même au Québec, dans les dernières années, la Mazda 3 a rushé. Tu sais, c'était le gros vendeur, ça se vendait comme des petits pains chauds dans les années 2000, début 2010 aussi. Là, c'est plus ce que c'était, c'est plus difficile. Et Mazda est encore une compagnie indépendante, surtout depuis que Ford n'est plus dans le portrait. Là. Et la compagnie, même si elle fait des voitures exceptionnelles, là, parce que la Mazda 3 actuelle, je pense que c'est, surtout depuis qu'elle est offerte en 4 roues motrices, c'est une voiture qui est hors de sa catégorie en termes de qualité.
Et paradoxalement, elle s'est jamais aussi peu vendue.
Et c'est ça que je comprends pas. Puis ça va être difficile pour eux de continuer de faire les recherches et le développement nécessaire pour une survie, pour pas avoir des produits écologiques. Fait que ça ne s'apprendrait pas qu'une grosse compagnie comme Toyota vienne les acheter tout simplement. Puis s'associer avec eux parce qu'ils ont déjà des associations pour certains produits, notamment des plateformes électriques pour le Japon. Fait que ça ne surprendrait pas que Mazda, éventuellement, ne soit plus disparaisse en tant que compagnie indépendante et devienne un peu un Sion, mais mieux de Toyota.
Ça peut pas être pire, ça c'est bien certain.
J'aimais la Sion TC. Ouais.
C'est bien, on est content pour toi. Fidèle à son habitude, le réalisateur a une question pour nous et il se demande qu'est-ce que les manufacturiers pourraient faire pour ne pas être sur le bord du ravin et peut-être disparaître ensuite.
C'est pas compliqué, ils vendent tout ce qu'ils ont, ils vont au casino, ils misent sur le noir, puis ils vont doubler leur chiffre d'affaires au pipette. Non, plus sérieusement, tout ce qui... Honnêtement, je pense que dans le cas d'Infiniti, c'est de ramener de la valeur à la marque. Tu sais, il était populaire parce que les jeunes les aimaient puis faisaient des bons produits. Je pense que c'est de retourner vers ça à la base. Arrêtez de chercher d'offrir des gadgets qu'on veut pas vraiment. Juste faire des autos solides, puis bonnes, puis fiables, qui ont une bonne valeur pour le prix. Un peu ce que Genesis est en train de faire, là. Moi, j'irais vraiment dans ce gamme-là. Fiat, malheureusement, je pense plus qu'il y a grand-chose à faire. La réputation de la marque, c'est ce que Hyundai était dans le temps de la Poney en Amérique. Puis Alfa Romeo, ben le problème, c'est que les autos, ils pètent puis sont chers. Qu'est-ce que je te dis?
Ça a l'avantage d'être très clair. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Marc-André Gauthier et moi-même, Germain Goyer à l'animation.
C'était Philippe Séguin à la réalisation, au montage et à la musique.
C'était une production Cube Radio.